Le temps à tout le monde de trouver. Néhémie chapitre 2. Va juste lire les cinq premiers versets de ce chapitre 2, puis on reviendra donner une petite historique. Néhémie chapitre 2, verset 1er nous dit: au mois de Nissan, le 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Donc c'est Néhémie qui parle. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères, est détruite, et que ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi: si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Donc, on voit verset 2 du premier chapitre, hein, et il parle de Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes. Quand il dit l'un de mes frères, il n'est pas en train de parler d'une manière générale comme mes compatriotes, hein. C'était vraiment l'un de ses frères. On le voit au chapitre 7, verset 2, où il parle d'Hanani une fois de plus. Il dit mon frère. Et on voit aussi, par exemple, comme le verset qu'on a lu en chapitre 2, verset 1er, du roi Artaxerxès, on a du mois de Nissan, etc. On retrouve un laps de temps qui nous est décrit de quand ce livre a été écrit, quand ceci se passe dans l'histoire. Et à l'évidence, hein, la ville de Jérusalem est détruite. Et en Esdras, juste avant, on voit où sous le règne de Cyrus, parce que bon, tout ceci se passe sous la captivité d'Israël quand ils étaient amenés à Babylone, mais depuis ce moment-là, Babyloniens ont été envahis et conquis par les Perses. Et on retrouve Esther, on retrouve Cyrus qui, poussé par le Seigneur, accepte que le temple soit rebâti. Donc Néhémie, il ne parle pas du temple, il parle de la ville, il parle des murs. Et on voit par la suite qu'effectivement, Dieu va utiliser Néhémie pour reconstruire les murs de Jérusalem, mais tout cela alors que le peuple d'Israël est toujours sous captivité à Babylone et sous la loi des Perses. Néhémie, si on prend le temps de lire le livre entier, fait référence à la prière au moins 11 fois. À mon avis, il faisait recours à la prière bien plus souvent que cela. Mais au moins que ça nous est mentionné dans les quelques chapitres que nous avons, 11 fois où on voit Néhémie prendre le temps spécifiquement pour prier pour une situation ou une autre. Dont une des fois que nous avons lu, si vous y avez prêté attention. Parce que au verset 4, il dit, et le roi me dit, que demandes-tu? Et il dit, je prie le Dieu des cieux. Et je réponds au roi, si le roi trouve bon, etc. Donc, une toute petite prière, et on va en parler justement, du fait de l'importance de prier avant d'agir, ou prier même parfois avant de parler. Et que souvent on se dit, j'ai pas le temps là, c'est quelque chose qui m'a pris au dépourvu, comme ici, quelque chose que je m'attendais pas, quelque chose qui est important, mais j'ai pas le temps, il faut que je réponde, ou il faut que j'agisse, il faut que je réagisse. Quelqu'un a demandé à Charles Spurgeon, pour ceux qui le connaissent, qui dit « qu'est-ce qui est le plus important ?» Et dans le contexte de sa question, c'est dans le sens de ce à quoi je dois y consacrer le plus de temps. Qu'est-ce qui est le plus important ? Prier ou lire la parole ? À cela, Spurgeon a simplement répondu « qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Inspirer ou expirer ?» Voulant d'écrire très facilement, il faut l'un et l'autre et pas l'un plus que l'autre. Et on a besoin des deux. On ne peut pas se passer de l'un, on ne peut pas se passer de l'autre, on ne peut pas faire de l'un plus important que l'autre. Il nous est facile de nous laisser influencer par l'urgence du moment, parfois pour ne pas penser à prier, n'est-ce pas? Mais revenons à notre passage et rappelons-nous pourquoi il est dit au verset premier qu'il est triste, alors que ce n'était certainement pas son habitude, ce n'était pas son témoignage. Il dit, comme le vin était devant lui, je pris le vin, parce que c'était son rôle, c'était ce pourquoi Néhémie avait le droit d'être auprès du roi. Et c'était celui qui devait lui servir. Et il dit, jamais je n'avais paru triste en sa présence. C'est intéressant. Il était, on peut dire, esclave, il était au minimum un serviteur, il était toujours un peuple, parmi un peuple exilé, il doit servir la personne qui représente la personne, c'est pourquoi ils sont toujours exilés, mais jamais est-ce qu'il n'a paru triste devant lui. Alors, pourquoi est-ce qu'il est triste? Là, on revient au chapitre 1er, et verset 1 à 4 nous dit, « Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. » Donc son frère n'était plus à Babylone, parce que sous Cyrus, il en avait laissé partir quelques-uns pour rebâtir le temple, et ils avaient le droit d'y rester. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Verset 9, toujours du chapitre 1er, verset 7 à 9, nous dit aussi, oui, parce qu'il va dire qu'est-ce que lui, il est en train de dire à Dieu dans ses prières, pendant ce temps de jeûne. Et il dit à Dieu, « Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivais à Moïse, ton serviteur. » Mais il dit, « Mais souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. » C'est le cas en ce moment. « Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour vous y faire résider mon nom. » Et verset 11, il termine sa prière en disant, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » C'est un choix. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc là, on a le contexte. On recommence avec le chapitre 2 qu'on avait lu tout à l'heure et on voit que, oui, il ne m'a jamais vu triste auparavant, mais là, je le suis. Parce qu'il a reçu cette nouvelle de la part de son frère et d'autres qui vivent en Juda et qui voient l'état de Jérusalem. Il dit, elle est en ruine. Les murs sont... Elles sont consumées par le feu. Et en comprenant maintenant pourquoi son cœur est si lourd, et à cause du peuple d'Israël, mais surtout à cause de la ville de Jérusalem qui est en ruine. Et je trouve intéressant qu'il ne demande pas l'avis des personnes qui sont avec lui, les personnes avec qui il parle au verset 2, qui lui donnent ce rapport de comment est la ville. Il ne cherche pas conseil auprès d'eux de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, il sait, je vais jeûner, je vais prier, je m'adresse directement à Dieu. Et sa première réaction, avec la peine et la tristesse, c'est de se tourner, pas seulement vers Dieu, mais de lui faire confiance, de trouver sa force, pas seulement de ce qu'il va délivrer, mais aussi pour avoir la sagesse de savoir ce qu'il faut faire. Et puisque c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, on a la précision, qu'il prend le temps de jeûner et de prier. Il n'a pas vu le besoin de trouver un consensus, comme nous, on aime le faire si souvent. Mais il ne se dit pas non plus, qu'est-ce que moi je peux y faire? J'habite pas là-bas, je n'ai pas été libéré, je dois servir le roi, je dois rester ici. Quelqu'un d'autre doit s'en occuper. Non, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, voici le besoin, il faut que tu fasses quelque chose. Et Néhémie remet ce besoin entre les mains de Dieu et Dieu utilisa sa propre tristesse pour ouvrir une porte et répondre à ce grand besoin. C'est le fait qu'il soit triste qui touche le cœur de d'Artaxerxès. Moi, je ne vais pas y arriver ce matin. Mais s'il n'était toujours pas triste, si ça ne touchait pas son cœur à lui déjà, ça n'aurait pas touché le cœur du roi non plus. Il aurait continué sa journée comme de rien n'était. Il dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Néhémie ne faisait pas tout un spectacle du fait qu'il jeûnait. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ça qui incite à la curiosité du roi. C'est son chagrin, c'est sa peine, c'est sa tristesse. Ça, ce sont des choses que nous voyons dans les yeux d'une personne, dans même son comportement. On voit quand quelqu'un est triste, même s'il essaye un peu de le cacher, quand on ne sait pas l'habitude de la manière qu'on a l'habitude de le voir. Et le roi, lui, ne pouvait pas penser à autre chose. Il dit, bah, t'es pas malade, donc c'est pas ça. Et ça peut être qu'un chagrin de cœur. Il s'est dit, seule une femme peut te faire aussi mal. Il dit, seule une femme peut te rendre aussi triste. Alors, parle-moi-en, dis-moi. Il dit, non, c'est pas ça, mon roi. C'est pas ça. Et à cet instant, c'est à cet instant-là que nous nous retrouvons dans ce chapitre 2, où nous voyons Néhémie face à cette situation pour laquelle il vient de prier, de jeûner, ne sachant pas, ne réalisant pas que Dieu allait répondre à sa prière en utilisant sa propre tristesse pour ouvrir les portes de cette discussion. Et j'aimerais qu'on utilise son exemple et son enseignement pour nous encourager à faire un peu le parallèle avec ce que Néhémie a fait ici. Et le passage que nous avons en 1 Thessaloniciens 5, 17 qui nous enseigne qu'il nous faut prier sans cesse. Je vois une corrélation, un parallèle entre les deux. Les deux sont la même chose. De ce que nous voyons Néhémie faire ici, c'est ce que Dieu essaie de nous enseigner dans le Nouveau Testament, quand il nous dit à quelques reprises, prier sans cesse. Et je crois que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance des toutes petites prières, des prières très courtes, mais des prières intenses qui vont droit au but comme une flèche au milieu de sa cible. Nous allons voir deux ou trois choses, Dieu voulant, ce matin par rapport à cela, qui va, j'espère, nous aider à implanter ce genre de prière dans notre vie. Alors la première, c'est de répondre à la question, pourquoi est-ce que ce genre de prière est importante? On voit les versets 2 à 4, où on voit Néhémie répondre au roi. Et on voit le roi poser cette première question. Pourquoi t'es triste? Et au verset 3, on ne voit pas qu'il ait pris le temps de prier, n'est-ce pas? Il dit, pourtant, il dit, je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. C'est quand le roi posa sa deuxième question. Que demandes-tu? Là, on voit, il dit, je priais le Dieu des cieux et je réponds. Il y a une différence. Ce n'est pas qu'on doit obliger on ne peut jamais répondre à la moindre question sans prendre le temps de prier pour chaque chose, mais on ne doit pas faire l'inverse non plus. Moi, je n'ai pas le temps, donc je ne prie pas. Alors que on voit Néhémie ici, il n'avait pas le temps non plus, mais il a prié. Et le roi pose une question sans savoir que la réponse pesait lourd sur le cœur de Néhémie. Il aurait été facile pour Néhémie de laisser parler ses émotions et prendre cette opportunité pour recevoir ce qu'il désirait. Mais on le voit d'abord prendre le temps de prier. Une toute petite prière, très rapide, mais une prière importante. D'une part parce qu'elle nous aide à ne pas agir justement selon la chair. Juste parce qu'on désire une bonne chose ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut à ce moment-là. Je sais qu'il y a un enseignement subtil enseigné dans le monde en ce moment que beaucoup de chrétiens ont adopté. Ils disent de faire une mauvaise chose pour une bonne raison est une bonne chose. Alors que Dieu dit non. De faire une mauvaise chose pour n'importe quelle raison reste une mauvaise chose. Là, Néhémie est face à une situation où il peut avoir une bonne chose. Mais je veux que ça soit fait de la bonne façon. Je veux que ce soit Dieu qui ouvre la porte. Je veux m'assurer que c'est ce que Dieu veut lui aussi. Et pas juste parce que c'est ce que moi je désire, et là j'ai l'opportunité de la saisir, et donc je ne vais même pas demander à Dieu si c'est ce qu'il veut, je veux le faire, je vais le faire, je vais avoir ce que moi je veux. Et je ne pense pas que ce soit que Néhémie avait peur que son désir soit contraire à la volonté de Dieu. Et je ne pense pas que Néhémie a prié s'il devait parler ou non. C'était plus une prière pour la sagesse de savoir comment répondre qu'autre chose. Le roi lui a posé une question. Il était obligé de répondre. C'est pas son frère, Hanani, c'est le roi qui lui pose la question. Comme avec les frères, on peut les ignorer tant qu'on veut, c'est qu'un frère. Le roi, t'as pas intérêt. Il est obligé de répondre. Mais Néhémie ne voulait pas répondre selon les désirs de sa chair, il voulait répondre de manière que ça corresponde à la volonté de Dieu, que ça fasse plaisir à Dieu dans sa réponse. On voit que quand le roi pose sa première question, on l'a dit, il était saisi d'une grande crainte et pourtant il répond tout de suite. Mais la deuxième question le pousse à prier avant de parler. Il ne veut pas répondre trop hâtivement alors qu'il sait exactement ce qu'il voudrait dire. C'est pas qu'il ne sait pas. Il vient de dire dans tout le chapitre 1 à Dieu ce qu'il aimerait voir arriver. Ça fait plusieurs jours qu'il prie, ça fait plusieurs jours qu'il jeûne à ce sujet. Il sait exactement quelle est sa volonté. Il va, pour le rappeler, hein, verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » Et on a lu une partie des versets 7 à 11. Qu'est-ce qu'il dit dans ses prières ? Jour après jour après jour. Il savait exactement ce qu'il voulait, mais il prend le temps de prier pour demander l'aide de Dieu avant de répondre. Parce que l'important n'est pas d'avoir ce qu'il veut, mais de rester dans la volonté de Dieu, de ne rien faire ou dire qui déplaise à Dieu. Si vous préférez, il veut s'assurer que ce soit Dieu qui est en train d'ouvrir la porte et non lui par ses propres forces. Et ça, nous avons parfois du mal. J'ai la capacité et on va le rationaliser en disant bah, « Dieu m'a donné la capacité d'ouvrir cette porte et donc je vais utiliser ma force pour l'ouvrir. Bah, » Peut-être, Dieu a utilisé son chagrin, Dieu a utilisé sa tristesse, Dieu a également utilisé sa position en tant qu'échanson du roi. Et certains diraient, même s'il arrivait de convaincre le roi de par sa propre persuasion, peu importe. L'important, c'est quand même d'avoir l'approbation du roi pour aller rebâtir les murs de Jérusalem, non? Eh bien justement, je dirais que non. Pas pour Néhémie en tout cas. Pas à n'importe quel prix. Il voulait s'assurer que c'était également la volonté de Dieu, parce que c'est seulement si c'est Dieu qui ouvre la porte, si c'est sa volonté, alors c'est la seule façon pour lui d'avoir l'assurance que son projet réussira. Il peut avoir une réponse positive temporaire à ce moment-là. Et si vous lisez le reste de Néhémie, vous allez voir le nombre d'oppositions qu'ils ont eues dans la construction de ces murs. Et si Dieu n'était pas avec eux, ils n'auraient jamais rebâti ce mur. Mais ils pouvaient rebâtir et faire face à toutes les oppositions parce qu'ils se disent « J'ai prié, j'ai laissé cela entre les mains de Dieu et c'est lui qui a ouvert les portes. Ce n'est pas moi de par ma force de persuasion, par quelque chose que moi j'ai accompli. Je prends le temps de prier. » Seigneur, que ta volonté se fasse. On ne sait pas ce qu'il dit dans sa prière, mais on sait qu'il ne va pas prier, de prendre le temps de prier avant de répondre, s'il ne va pas se soumettre à la volonté de Dieu non plus. Alors, le fait de ne pas agir ou répondre trop hâtivement et prendre le temps de prier une courte prière, ça va nous aider, nous aussi aujourd'hui, à ne pas agir dans la chair trop hâtivement. Et de toujours être soumis à Dieu. Mais le fait de prendre le temps de prier, une petite prière de quelques secondes, nous aide également à remettre les choses en perspective. Quand on prend le temps de prier, juste une phrase, juste une pensée, avant d'agir et de parler, qu'est-ce que ça fait? Ça nous aide à nous rappeler que ce n'est pas nous qui sommes en contrôle, que je me soumets volontairement à l'autorité et à la volonté de Dieu avant tout. Ça nous rappelle que la volonté de Dieu est plus importante que la mienne, même si je désire quelque chose qui me paraît bonne à mes yeux. Ça nous rappelle que lui, s'il veut faire autrement, bah qu'on est d'accord. Sinon, pourquoi prendre le temps de prier? Et si on va faire tel qu'on le désire, peu importe, Alors, c'est pas la peine de prier non plus. Prière, quand on prie tel que Dieu nous l'enseigne, automatiquement inclut le fait que nous sommes soumis à sa volonté, que nous acceptons sa volonté. On peut imaginer, je t'en prie, que Néhémie était rempli d'émotions, n'est-ce pas? On le voit avant triste, on le voit la première question remplie de crainte. Maintenant, il reçoit une question qui va dans le sens qu'il espérait, peut avoir une certaine excitation. Beaucoup d'émotions mélangées, allant un peu partout. Il dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, que dois-je répondre? Comment est-ce que je dois répondre? Seigneur, que ce soit toi qui me dise ce que je dois dire, ce que je dois faire. Donne-moi sagesse, donne-moi force. Peu importe sa prière de quelques secondes, il remet cette situation envers Dieu. Et on sait, toutes ses émotions se mélangent en lui. C'est toujours très facile de se laisser submerger par ses émotions. Et le fait de prendre ces quelques secondes de prière, on est en train de remplacer ses émotions par la présence et la volonté de Dieu. C'est une petite prière qui nous aide à ne pas agir selon notre chair. Il nous aide à garder une bonne perspective. C'est Dieu qui est en contrôle, pas moi. Je ne suis pas seul non plus. Dieu est avec moi. Ce n'est pas ma force et ma sagesse. Je dépends de Dieu, je me soumets à sa volonté avant tout. Et on pourrait rester sur ce principe et voir combien il est important pour nous de prendre le temps de prier ce genre de prière, et je dirais même régulièrement, mais regardant également que comment devons-nous prier ce genre de prière. Parce que de part l'évidence même, elle était brève, elle était courte, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas en être autrement. Le roi pose une question, le roi s'attend à une réponse. Néhémie n'a pas le temps de prier une longue prière. Je sais que la Bible nous enseigne, comme avec la veuve persévérante, impertinente, en Luc 18, que nous devons parfois prier sans nous décourager, prier encore et encore pour la même chose, pour le même besoin, de ne pas se relâcher. Comme les prières que nous adressons pour Julie, comme les prières que nous avons adressées pour Brian Corbett, et pour bien d'autres. Et ce sont de bonnes prières, il faut persévérer pour ces prières. Et Néhémie aurait pu se dire, comme nous le faisons parfois, j'aimerais prier pour ce besoin, c'est un besoin très important, mais je n'ai pas le temps. Tant pis, alors j'agis, je réponds. Mais Néhémie, par l'évidence, ne s'est pas dit toutes ces choses. Il prend le temps de prier, une prière bien courte, certes, mais une prière importante. Parce que c'est un moment où l'important n'est pas ce que dit la prière, mais la volonté de la personne de se soumettre à l'autorité et la souveraineté de Dieu. Comme on l'a déjà dit, cette prière est introduite entre la question et la réponse. Il est fort probable que le roi lui-même n'a pas pu voir ou réaliser que Néhémie a même dit une prière avant de répondre. Mais l'important, ce n'est pas que le roi l'ait vu ou non. L'important, c'est que Dieu l'ait vu et que Dieu l'ait entendu. Elle était courte, tout comme elle était silencieuse. Elle était inaperçue. Elle était discrète. Souvent, on se dit que le plus que ma prière est longue, le plus qu'elle sera efficace. Mais ce n'est pas vrai. Il est bien d'avoir des prières audibles, même que d'autres peuvent entendre, comme on a eu ce matin, pour qu'on puisse ensemble être unis. Je ne peux pas savoir ce que vous pensez quand vous priez en vous-même. Il est bien d'avoir des prières audibles, mais je suis de plus en plus persuadé que nos prières, franchement, les plus efficaces, sont les prières que personne d'autre ne peut entendre. Nos prières silencieuses. Nos prières où on peut vraiment ouvrir notre cœur sans crainte, sans relâche, et tout déballer entre nous et Dieu, sans craindre de ce que les autres pourront penser s'ils entendaient ce que nous prions. On doit se rappeler que la prière, elle est toujours pour notre bénéfice, n'est-ce pas? Dieu ne nous a pas donné la prière pour aider Dieu, pour l'aider lui à savoir des choses qu'il ne savait pas déjà, pour connaître un besoin ou un autre. Dieu nous donne la prière comme moyen de communication pour qu'on puisse déballer à ses pieds ce que nous avons sur le cœur. C'est exactement ce que Néhémie a fait ici. Depuis des jours, il jeûne, il prie. Et là, il a enfin l'opportunité. Il prie encore, juste quelques secondes. Et bien souvent, de prendre le temps de prier, une courte prière, même silencieuse, de dire à Dieu en quelques secondes ce que nous avons sur le cœur. Ça ne changera rien pour Dieu, mais nous fera le plus grand bien. Dieu n'en est pas insensible non plus. Mais j'imagine que Néhémie il a même pas fermé les yeux. Il n'a pas baissé la tête. Il ne s'est même pas mis à genoux. Il ne s'est pas tourné vers une direction spécifique. Il n'a pas levé les mains vers le ciel. Il n'a pas mis d'habit spécial de prière. Il n'a pas récité une prière apprise par cœur. Il n'a pas fait de rituel. Il a juste ouvert son cœur pendant quelques secondes envers Dieu, à travers une prière instantanée, courte, silencieuse, discrète. Mais la différence, c'est que c'était une prière sincère. Sincère et intense, remplie de foi et de soumission. Et voilà toute la différence, n'est-ce pas? Pas seulement la foi que Dieu l'écoute et l'entend, mais la foi que Dieu va l'aider à savoir comment répondre à la question du roi. La durée d'une prière ne pourra jamais remplacer la sincérité et la foi de notre prière. Certains espèrent qu'en priant plus longtemps, peut-être que la foi viendra avec le temps. Le plus que je prie, le plus que je montre que je suis sincère. Et comme je dis, il y a des moments où oui, c'est une bonne chose de prier plus longtemps. On a des enseignements qu'il nous faut prier avec persévérance, encore et encore. Mais il ne faut pas confondre la durée de la prière comme étant un moyen pour déterminer la sincérité de notre foi. Pourtant, nous savons que le Seigneur regarde le cœur plus que les paroles. Dans notre passage, il est dit « Je priais le Dieu des cieux ». Je ne sais pas si vous le saviez ou non, mais ce terme, le Dieu des cieux, c'est le terme préféré de Néhémie pour désigner la personne de Dieu. Néhémie savait à qui il s'adressait. Le roi lui pose la question, mais il y a quelqu'un de bien plus important, de bien plus haut, de bien plus placé que lui, le Dieu des cieux à qui je peux m'adresser directement. Et il savait qu'il était réellement en contrôle. Il savait que sa volonté, la volonté du Dieu des cieux est toujours plus importante que qui que ce soit. Néhémie était déjà en train de jeûner et de prier pour que Dieu puisse ouvrir les portes et faire en sorte que les murs de Jérusalem soient rebâtis. Voilà maintenant, alors qu'il est en train de servir du vin au roi, que le roi Artaxerxès lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es triste ?» Il ne s'attendait pas à cette question à ce moment-là. « Je suis en train de faire quelque chose que je fais, j'imagine, presque quotidiennement. Le servir comme je l'ai fait tous les autres jours. » Et Néhémie, à ce moment-là, il aurait déjà pu faire comme si de rien n'était. « Oh, ce n'est rien, mon roi, ce n'est rien, tout ira bien. Et merci de t'intéresser à moi, ou je ne sais pas quoi, mais il aurait pu mettre cette chose de côté et dire, c'est rien. » Ou il aurait pu sauter sur l'occasion. « Eh bien, justement, ça fait plusieurs jours que je suis en train de jeûner et de prier sur ce sujet, ben, maintenant que tu me poses la question, laisse-moi te dire. » Bon, il lui répond, une première réponse un peu... Sans trop de détails, il dit « Je suis triste à cause de l'état de ma ville natale, de ma ville. Je suis triste parce que ses portes sont consumées par le feu. » Il en parle comme disant « Comment ne serais-je pas triste quand j'ai reçu une telle nouvelle que ma ville est comme cela ?» Et là, c'est le roi qui entend cela. Il dit « Ben, dans ce cas-là, que demandes-tu ?» Autrement dit, il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour que ça change? Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour que tu ne sois plus triste? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est là où on voit Néhémie prendre le temps de dire « Là, je priais le Dieu des cieux avant de répondre au roi. » Courte prière silencieuse, mais sincère. Une prière qui vient du cœur, un cœur qui est lourd, mais un cœur qui reste soumis à l'autorité et à la volonté de Dieu. Alors pour terminer, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce genre de prière est pour tous les chrétiens? Parce qu'on sait que tout chrétien doit prier. On sait même, tout chrétien serait d'accord pour dire, on doit même avoir des prières quotidiennes, régulières. Hein, on sait qu'on en a besoin. On a, pour notre vie, pour notre croissance, c'est même primordial. Comme le disait tout à l'heure Spurgeon, c'est de lire et de prier, pareil que inspirer et expirer. J'ai besoin de recevoir les vérités de la parole de Dieu et j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai sur le cœur envers Dieu. On le chante dans le chant des enfants. Lis ta Bible et prie chaque jour, si tu veux quoi? Grandir. Pour ceux qui connaissent le chant. Et lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Inspirer et expirer. Tout comme ce n'est pas la peine de demander si nous devrions avoir un temps de prière régulière et quotidienne. Je crois que la plupart des chrétiens sont d'accord. Même si beaucoup diront, j'ai du mal à être régulier dans ce domaine, mais ils savent que c'est une bonne chose. Si ce n'est rien d'autre d'avoir l'habitude de commencer chaque journée avec une prière et de terminer chaque journée, devrait être le minimum de tout chrétien. Psaume 145, verset 18 nous dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Peu importe le besoin, peu importe la louange et peu importe la durée, l'accent est quand même mis sur sincérité. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ce mot vaquer peut être traduit par veiller également, ou ne pas prendre à la légère la prière. Luc chapitre 21 verset 36, veillez donc et priez en tout temps. C'est une autre façon de dire sans cesse, n'est-ce pas? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je crois qu'on sait qu'on doit prier. Je crois qu'on sait qu'on doit prier même quotidiennement et régulièrement. Mais quand nous parlons de prier une courte prière, d'une seconde ou deux, de quelques secondes, est-ce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire ou non? Parce que ça doit devenir un réflexe. Parce qu'on n'a pas le temps, justement. Si on n'a pas ce réflexe, on n'y pensera pas et l'occasion est déjà passée, on a déjà répondu avant d'avoir même prié. Ça, on relie cette partie de prier sans cesse. Tout chrétien est enseigné, est encouragé à prier sans cesse. C'est pas juste pour les pasteurs, c'est pas juste pour les personnes spécifiques dans l'assemblée. Tout chrétien est encouragé à prier sans cesse. Et pour moi, on peut pas dissocier le fait de prier une courte prière silencieuse avec le fait de prier sans cesse. On parle souvent de prier sans cesse comme étant cette attitude de prière, n'est-ce pas? Et ce n'est pas faux en soi. Mais si nous sommes effectivement dans cette attitude de prière, ne croyez-vous pas que ça va se révéler à travers toute cette petite prière silencieuse que nous apportons devant le Seigneur? Puisque nous parlons d'une toute petite prière, assez courte pour être introduite comme ici, entre une question et une réponse qui est attendue, ben nous n'avons pas d'excuse de ne pas pouvoir prendre le temps de la prier. Parce qu'elle ne requiert pratiquement pas de temps du tout. Pas d'effort, pas de cérémonie à suivre. Juste un petit « Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. » Ça prend 3 secondes pour prier cela. Seigneur, donne-moi le courage. Seigneur, guide-moi. Les nombres de prières et leur utilité sont presque infinis, alors qu'elles ne durent que quelques secondes. Parce que l'important n'est pas la prière en elle-même, mais c'est la sincérité et la volonté de mettre la volonté de Dieu en premier. Et de ne pas trouver la facilité de dire « Ah ben j'ai pas le temps, tant pis, si j'ai fait une erreur, il m'aidera, il me corrigera. » Seigneur, aide-moi à ne pas dire une bêtise. Il y en a qui devraient prier cette prière plus que d'autres. Moi y compris. Seigneur, il sait combien de fois je prie. Seigneur, aide-moi à ne pas être une pierre d'achoppement. Seigneur, donne-moi la sagesse. Si on ne sait pas, spécifiquement, on peut dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Je dirais même que je ne connais pas de situation où il serait impossible pour le chrétien de prier une telle prière. Je peux être en voiture, en avion, en bateau. Je peux être sur mon lit à l'hôpital ou sur mon canapé. Je peux être en pleine forme, je peux être malade. Je peux être heureux, je peux être comme Néhémie triste. Je peux être plein de courage ou je peux être rempli de crainte. Je peux avoir une mal de tête ou une migraine qui m'empêche de me concentrer sur ces prières un peu plus longues que j'aime prier. Je peux être debout, je peux être allongé, je peux avoir les yeux ouverts ou fermés, peu importe. Rien de cela m'empêche de prier cette prière de quelques secondes. Seigneur, aide-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, donne-moi sagesse. Je peux prier ces quelques secondes, peu importe dans les cas auxquels je me trouve et où je me trouve. La seule chose qui peut m'empêcher de le faire, c'est moi-même. Soit parce que je n'y pense pas, parce que je ne suis pas encore dans cette attitude de prier sans cesse, ce n'est pas un réflexe dans ma vie, ou parce que je ne pense ne pas en avoir besoin. Oh, c'est ça, je peux répondre. Je m'y connais. Ah, ça, je connais ce sujet-là sur le bout des doigts. Néhémie aussi, il connaissait la réponse sur le bout des doigts. Il vient d'avoir à la moitié du chapitre 1 qui nous donne toute la réponse envers Dieu dans ce qu'il demande à Dieu, par quelle réponse il voudrait voir. Ce n'est pas parce qu'il connaît le sujet que ça l'empêche de prier que le Seigneur l'aide. D'avoir l'habitude de prier est une bonne chose. Elle est nécessaire pour notre croissance. Mais nous devons cultiver cette attitude, ce réflexe d'aller vers Dieu, de prier sans cesse, tout le temps. Si vous ne le faites pas encore, je ne peux que vous encourager à ne pas mettre de côté cet enseignement que Dieu nous donne dans sa parole. Parce que ce n'est pas mon avis. C'est que Dieu nous dit clairement que nous devons, que nous avons donc la responsabilité de prier sans cesse. Et quand on n'a pas envie de le faire, c'est là où on essaiera de trouver des moyens de contourner. « Ah, mais ce n'est pas si réalisable que ça, tu sais, c'est pas pour là, puis on essaye d'excuser. » Alors que Dieu ne nous a jamais demandé de faire quelque chose qui ne nous permettra pas d'accomplir non plus. S'il nous donne l'ordre, comme il le fait, de prier sans cesse, d'avoir l'habitude de nous tourner vers lui avant tout, avant de répondre même à une question qu'on vient de nous poser, ou avant d'agir ou de réagir, alors s'il nous permettra de cultiver cette attitude et ce réflexe de prier, une prière bien courte, mais remplie de foi et sincère, et soumise à son autorité. En 2 Samuel chapitre 22 verset 31, nous dit « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Vous savez, un bouclier est complètement inutile si le soldat ne s'en sert pas. Tu mets le bouclier par terre, ça peut être le meilleur des boucliers. On dirait que c'est un soldat pas très intelligent. Tout comme la prière. Parce qu'il dit, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Comment croyez-vous qu'on se confie en lui si ce n'est pas à travers la prière? Avant que j'oublie, cette petite prière intense et sincère ne sont pas obligées d'être que des requêtes, vous savez. Dieu aime nous entendre et voit prendre le temps de prier ces quelques prières de 3 secondes, juste pour dire merci de temps en temps aussi. Quand on réalise que Dieu m'a donné une bénédiction, là, Dieu m'a protégé, ou j'ai réussi à rentrer de la maison de là où je me trouvais sain et sauf, j'ai pas eu d'accident de voiture, ou peu importe, 3 secondes. Merci Seigneur pour la sécurité sur ce chemin. Ou juste dire, merci Seigneur. Il voit le reste de notre pensée. Il sait pourquoi on est en train de dire merci. Mais ces prières courtes et intenses, ces prières sans cesse, ce n'est pas que pour demander secours et aide. Ça devrait être mélangé avec beaucoup de prières de louange et de gloire et de remerciement. Quand on se balade et qu'on voit le rayon de soleil transpercé à travers les nuages, on dit c'est beau. Oui, mais merci Seigneur pour ta création. Quand on voit ce matin, je montrais en roulant, on dit regarde là-bas, et on dirait qu'il pleut beaucoup par là-bas. Et on devrait pouvoir voir un arc-en-ciel. Comment ne pas voir un arc-en-ciel sans dire merci Seigneur pour ta promesse? D'avoir l'habitude, des petites prières courtes, intenses, mais sincères de remerciement, de louange. Et quand il arrivera que on est devant une situation où on a besoin d'aide, ben le réflexe est déjà là. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la sagesse. Et quand tout va bien, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Etc., etc. Vous n'avez pas l'habitude d'aller vers Dieu dans des petites prières courtes, mais intenses, sincères et pleines de foi. Alors, peut-être qu'il est temps de changer votre façon de penser. Je crois que ça ferait énormément plaisir à Dieu et vous serez peut-être étonné de voir de quelle manière Dieu pourra utiliser cela pour changer votre vie aussi. Le plus qu'on réalise qu'on ne peut rien faire sans Dieu, le plus qu'on sera dépendant de lui et le plus qu'on voudra nous tourner vers lui pour son soutien, pour sa force, pour sa sagesse, pour sa joie, pour sa paix, on ne se croira plus autosuffisant pour certaines situations. Mais on dépendra de lui pour toutes les situations. Et on ne verra pas cela comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose d'encourageant. Comprenons bien que quand on dit de se soumettre à la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'accepter sa volonté, mais d'être d'accord que sa volonté est meilleure que la mienne, que je désire faire sa volonté, et non que j'accepte de faire sa volonté alors que je crois que la mienne est meilleure quand même. Ça, ce n'est pas la vraie soumission. La vraie soumission exige une vraie humilité. L'humilité, c'est de reconnaître que ma volonté ne sera jamais meilleure que la sienne. Ce n'est pas une soumission forcée. Ça doit être une soumission logique quand je réalise qui Dieu est et qui je suis. Si ce n'est pas ce que vous faites, je crois que Dieu désire vous voir grandir dans votre communion avec lui pour que sa volonté devienne votre volonté. Et non que vous fassiez sa volonté malgré votre volonté qui reste différente. Un peu comme le rapport qu'il y a entre un enfant et ses parents, encore une fois. Quand j'étais petit, ma mère me demandait, comme beaucoup, demandait parfois de l'aider à faire la vaisselle. Ce n'était pas ma volonté. Mais je le faisais. Parce que je préférais faire la vaisselle que de recevoir les conséquences de ne pas la faire. Mais au fur et à mesure que je grandissais, ben j'ai remarqué que de faire la vaisselle était quelque chose qui rendait service à ma mère, mais c'était également un temps qui lui faisait plaisir, parce qu'elle faisait la vaisselle avec moi. C'est du temps qu'elle passait avec moi, on parlait juste entre nous. Alors, le fait que rien n'a changé, sauf moi, dans ma maturité, j'ai grandi un peu. Et c'est devenu ma volonté de faire la vaisselle avec elle. Parce que je voulais faire la vaisselle pour elle. Et ce n'était plus elle qui me demandait « Est-ce que tu veux bien faire la vaisselle avec moi ?» C'est moi qui demandais « Est-ce que je peux faire la vaisselle avec toi ?» Sa volonté est devenue ma volonté. Et la seule chose qui a changé, c'était ma maturité à moi. Et c'est ce que Dieu veut voir en nous. Que notre maturité, notre communion avec lui grandisse au point que sa volonté devienne notre volonté à cause de qui il est lui. Parce qu'on l'aime, parce qu'on voit qu'il aime partager ce temps avec nous. Dieu nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix, si vous préférez ma volonté, ne sont pas vos voix, votre volonté. Mais comprenez-vous la joie également quand Dieu nous voit changer, grandir et mûrir en maturité et voir notre volonté se conformer de plus en plus à la sienne. Pas parce qu'on s'y sent forcé, mais parce qu'on apprend à l'aimer tel qu'il le mérite. Toutes ces petites prières, courtes et sincères, ces prières de 3 secondes, 4 secondes, pendant toute la journée, ce n'est pas pour le bénéfice de Dieu, mais c'est pour notre bien à nous. Ce sont ces choses-là qui nous aident justement à grandir et à mûrir. Des prières qui vont nous aider à être et rester dans la volonté de Dieu volontairement parce qu'on l'aime. Seigneur, aide-moi à ne pas agir selon la chair. Seigneur, aide-moi à ne pas agir d'une manière qui te déplaise. Seigneur, aide-moi à ne pas répondre de la même manière qu'on est en train de me parler. Seigneur, aide-moi. La réalité est que beaucoup de ces petites prières sont même plus spirituelles que nos longues prières, où nous espérons que le nombre de paroles et notre éloquence remplacera notre manque de foi et de sincérité. Mais permettez-moi de vous dire, un hypocrite peut prier pendant des heures, mais ce réflexe, ce cri vers Dieu, ça doit être un cri du cœur. Alors, je vous rassure pour conclure, voyez le résultat de cette prière. On n'a pas lu les versets, toujours au chapitre 2, versets 17 et 18. Je leur disais alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Regardez également le verset 20. Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Pour ceux qui étaient contre, qui essayaient déjà au début d'arrêter le projet. Mais, vous savez pourquoi Néhémie pouvait affirmer ces choses? Que Dieu était pour lui et avec eux, et que c'est Dieu qui leur apportera le succès. Vous le savez maintenant, il pouvait le dire que ce n'est parce qu'il savait que ce n'était pas lui qui avait persuadé le roi. Il a remis sa requête et donc sa réponse au roi entre les mains de Dieu. Seigneur, que ta volonté se fasse. Seigneur, aide-moi à savoir qu'est-ce que je dois dire. Maintenant qu'il a vu le Seigneur agir, il peut être confiant, sachant que Dieu est avec lui, que ce projet réussira parce qu'il a mis Dieu en premier au lieu de répondre selon les désirs de son cœur. Alors, permettez-moi pour conclure de vous lire quelques citations que différents auteurs ont écrites par rapport à la prière et on terminera également avec un verset ou deux. Quelqu'un a dit, nos prières peuvent être maladroites, voire même faibles, mais puisque la puissance même de la prière se trouve dans la personne qui entend et non dans la personne qui l'a dite, nos prières font une différence. Ça changerait peut-être parfois la manière qu'on parle aussi. Qu'on n'essaye pas de convaincre Dieu de par la beauté de nos paroles. Quelqu'un d'autre a dit, d'essayer d'être un chrétien sans prière est tout aussi impossible que de vivre sans respirer. Là, il rejoint les idées de Spurgeon de inspirer ou expirer. Il y a un auteur qui a écrit plusieurs livres sur la prière, qui s'appelle E.M. Bounds. Dieu voulant, j'ai fait la commande de ces quelques livres, il en a 3 ou 4 en français. Je les mettrai à disposition pour ceux qui voudront les lire. Quelques citations qu'il fait dans ses livres, c'est « La prière est ce qui aide l'homme à être plus comme Dieu. La prière l'aide à avoir la pensée de Christ, avoir l'humilité, un cœur serviable et enseignable. Si nous prions correctement, nous nous approchons de Dieu, sinon nous arrêterons de prier. » Il a également dit « La vie d'une prière va au-delà de la vie de la personne qui la prie. La vie d'une prière va au-delà d'une génération, d'une époque ou même d'un monde. » Parce que ce n'est pas notre prière, c'est ce que Dieu va faire avec cette prière qui fait une différence. Il a également dit, toujours le même auteur, « Nos prières, cependant, doivent être faites avec vigueur et poursuivies avec une énergie qui ne s'épuise pas, ainsi qu'avec un courage qui n'abandonne pas. » Certains connaissent John Bunyan, c'est l'auteur du livre « Voyage du pèlerin ». Et il a dit, quand il s'agit de prier, il est préférable d'avoir une prière sans parole que des paroles sans cœur. Certaines connaissent, on a parlé, Suzanne et moi avons visité son musée il n'y a pas longtemps, de Corrie ten Boom, cette prisonnière en camp de concentration pour avoir aidé des Juifs et résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une de ses citations sur la prière, c'est « Tout besoin qui semble trop petit pour le transformer en prière est également trop petit pour être un fardeau. » Vous connaissez Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et ce mot persévérance rejoint cette idée de prier sans cesse. Matthieu chapitre 6, on terminera avec celui-là et on terminera par un mot de prière. Matthieu chapitre 6, verset 5. Et suivant. Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Répétition de paroles ne sert à rien. Par contre, une petite prière courte, sincère, rempli de foi, est plus que suffisant pour que Dieu puisse agir au point où il peut libérer un peuple, libérer une partie du peuple pour aller reconstruire les murs de la ville pour que sa volonté se fasse. Ne négligez pas la grande puissance que nous retrouvons à travers ce réflexe de prier sans cesse à n'importe quel moment de la journée. Prions s'il vous plaît.